Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
Passion médiéviste, les hors-séries.
Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série du podcast Passion médiéviste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir au micro quelqu'un que vous avez déjà entendu au moins deux fois, il me semble, Christophe Furon. Bonjour Christophe.
Bonjour Fanny.
Christophe, ah voilà, je te reçois à l'occasion de la sortie de ton livre « Les écorcheurs » sorti aux éditions Arquet en octobre 2023. On va en parler en détail. C'est la deuxième fois alors que je fais ce format d'épisode où je reçois des invités qui sortent des livres. Je vous renvoie vers le mini-épisode que j'ai fait avec Lucie Jardot, l'invitée de l'épisode 4 de Passion médiéviste, c'était il y a fort longtemps. Et donc Christophe, je t'avais reçu dans l'épisode 29. Le titre, c'était « Les compagnons de Jeanne d'Arc ». Alors, avec le recul, on aurait peut-être dû pas mettre ce titre. Mais c'est ma faute aussi, tu avais travaillé donc sur Étienne de Vignolles, dit Laïr, et Poton de Xaintrailles, donc des capitaines de Charles VII. On avait sorti cet épisode en juillet 2019. C'était il y a fort longtemps.
Ouais.
Il y a plus de 11 000 écoutes pour cet épisode, donc plutôt un succès. Je suis très contente. Donc, auditeur, auditrice, si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment. Et je t'avais aussi reçu dans l'épisode hors-série sur la guerre qu'on avait sorti en novembre 2022 avec Peter Morel et Albert Leparc. Donc, Christophe, tu es donc toujours enseignant, c'est ça ?
C'est ça.
Donc, docteur en histoire médiévale et chercheur associé du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de Nantes Université. Et donc, justement, avant de parler de ton livre, faisons un peu le point sur ton parcours depuis le premier épisode qu'on a enregistré ensemble en 2019. Parce que tu as soutenu ta thèse en décembre 2021. J'avais eu aussi le plaisir et l'honneur d'assister à ta soutenance de thèse. C'était très intéressant. Alors, raconte-nous déjà comment tu as vécu ta soutenance de thèse et comment ça s'est passé pour toi ?
J'étais très très fatigué, c'est-à-dire que il y avait un tel enjeu pour moi, un enjeu personnel, qu'en fait, dans les 48 heures avant, j'ai très peu dormi. Et donc, quand je suis arrivé à la soutenance, j'étais pas dans un état où il fallait soutenir, en fait. Mais ça s'est bien passé, effectivement. Et puis, j'ai vécu ça comme un accomplissement, évidemment, après toutes ces années de recherche. Surtout que faire une thèse en même temps qu'en enseignant, c'est quand même compliqué. Donc, j'étais content d'être arrivé au bout et puis d'avoir eu les félicitations quand même du jury au final. Donc c'était quand même une belle expérience.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir une thèse ? En fait, une fois que tu l'avais soutenue, est-ce que ta vie a changé ? Raconte-nous.
Rien du tout.
Ah.
Rien et en même temps, oui. C'est-à-dire que d'un point de vue universitaire, je fais des vacations à l'université, mais comme avant
vacations,
la thèse.
Vacations, ça veut dire c'est des remplacements,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est bouche-trou plutôt. C'est-à-dire que... comme il y a de moins en moins de postes à l'université, on les remplace par des vacataires qu'on prend dans le secondaire et donc qui font quelques heures par semestre. Donc j'en faisais avant, donc j'en fais un peu plus après, mais c'est pas lié à la thèse. Par contre, ce qui a changé, c'est que au moment de la soutenance de thèse, en fait, l'éditeur Arquet m'a contacté pour un bouquin. Voilà, et ça a donné ce bouquin sur les écorcheurs. Donc d'un point de vue universitaire, ça change rien, mais à côté, ça m'a donné quand même une opportunité, ça m'a donné plus de visibilité aussi grâce aux réseaux sociaux et ça a donné plus de visibilité à mes travaux surtout. C'est ça qui est le plus important quand même.
Oui, tu as assez actif, notamment sur ce qu'on appelait avant Twitter.
Ouais, ouais.
Tu fais beaucoup de vulgarisation, de recherche dessus.
J'essaye. Après, c'est compliqué et puis ça dépend aussi du temps. Voilà, quand on a des copies à corriger, on passe davantage de temps à corriger les copies qu'à être sur Twitter. Mais c'est vrai que j'essaie de réagir parce que c'est quand même important d'être présent et d'apporter une parole scientifique sur un réseau qui l'aide de moins en moins. Donc faire acte de présence déjà pour les gens qui cherchent vraiment à s'informer. Bien sûr, on ne convaincra pas les extrémistes de tous bords, mais au moins pour les gens qui cherchent à s'informer, qu'ils puissent avoir une source d'information rapide à ce niveau-là.
Et donc, tu as fait un livre, là, qui est sorti récemment. Mais déjà, avant de parler du contenu du livre, ce livre, il n'est pas totalement adapté de ta thèse parce que ce n'est pas un livre sur Poton et Laïr, c'est un livre sur les écorcheurs. Alors, raconte-nous un peu le processus de création de ce livre.
Alors, l'idée de ce livre, en fait, est née pendant la thèse. C'est-à-dire que Laïr et Poton de Xaintrailles, ce sont des capitaines qui ont participé à l'écorcherie. On en reparlera tout à l'heure. Et en fait, en étudiant leur activité d'écorcheur, qui ne représente qu'un petit quart de leur carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sources qui étaient soit connues, mais pas entièrement exploitées, ou enfin voilà, il y avait encore des choses à dire, et aussi beaucoup de sources inédites que j'ai retrouvées dans mes pérégrinations dans les archives départementales et municipales dans le cadre de ma thèse. Donc je savais que ça n'entrait pas dans le cadre de la thèse, mais je me disais je garde ça de côté pour plus tard, et au final je m'étais dit bah tiens, ce serait bien qu'il y ait un bouquin dessus, enfin il y a matière à. Et il se trouve qu'au moment de ma soutenance, l'éditeur Arquet m'a contacté, et là je leur ai dit bah écoutez, là j'ai peut-être un bouquin qui correspondrait à votre ligne éditoriale. Et ils ont été plus enthousiastes que moi au début. Et donc, ça a donné ce livre, quoi, au final.
Et aussi, comment est-ce que tu as travaillé sur le livre ? Est-ce que c'est différent par rapport à l'écriture de la thèse ?
Oui, c'est différent tout de même, parce que je savais que je ne pouvais pas faire dans l'exhaustivité. Dans la thèse, on nous demande de tout dire. Là, je ne peux pas tout dire, tout simplement parce que je sais déjà qu'il y a encore des sources qui restent à découvrir. Et ensuite, on est limité en nombre de signes. Moi, ma limite fixée par l'éditeur, c'était 400 000, c'est déjà pas mal. Mais disons que ma thèse à côté, elle fait 2 millions de signes. Donc, on voit bien la différence. Et donc, on ne peut pas tout dire. Et je savais que je ne dirais pas tout. Donc ça change. Et ensuite, je savais que j'allais m'adresser à un public plus large que le public universitaire. Et donc, il fallait quand même que je travaille notamment sur l'écriture, parce que lire ma thèse, c'est quand même assez sec, c'est ardu. Et d'ailleurs, j'avais été frustré pendant la thèse de ne pas pouvoir travailler l'écriture véritablement. Donc là, j'ai essayé de le faire. Je ne sais pas si j'ai réussi à toutes les pages, mais en tout cas, j'ai voulu travailler là-dessus. Donc c'est vraiment un autre processus d'écriture. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'était une belle expérience quand même. J'ai appris d'autres choses. J'ai appris à écrire en fait, un petit peu. En tout cas, j'ai essayé.
Non, mais moi, je trouve effectivement que tu as un style qui est très... Alors, je sais pas très bonne en littérature, mais en fait, on est, en tout cas au début, on est immédiat stress, on est directement dans l'action, et ça, j'ai bien aimé. On sent qu'il y a un côté vraiment littérature quand on te lit, qui n'est pas juste un livre d'histoire, donc j'ai beaucoup aimé ça.
Bah voilà, dès l'introduction, en fait, je sais pas faire les introductions et les conclusions.
Ça se sent.
Ça m'a été reproché d'ailleurs à la soutenance de thèse. Et en fait, comme c'était pas un livre académique, je me suis donné la liberté de commencer par la fin, c'est-à-dire que on commence en 1445. Là, je cite des extraits d'une enquête qui a été très peu étudiée, a été connue de deux historiens avant moi, mais qui l'ont très peu analysée. Et donc, je me suis dit, je vais partir de là, et puis je vais mettre tout de suite le lecteur dans l'ambiance, quoi. Et comme ça permettra de poser ensuite le sujet. Et donc, voilà, quoi.
Alors justement, parlons du sujet du livre, les écorcheurs. C'est un nom comme ça qui fait peur, on a tout de suite des images qui sont assez horribles en tête. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'on appelle les écorcheurs ?
Alors les écorcheurs, ce sont des bandes de pillards qui ont sévi dans le royaume de France et sur ses marges de 1435 à 1445. Donc on est sous le règne de Charles VII. Et donc ce sont des hommes d'armes qui se retrouvent sans emploi après la paix signée entre Charles VII et le duc de Bourgogne. Il y avait une guerre civile.
Et on est dans le contexte de la guerre de Cent Ans.
Voilà, on est dans le contexte de la guerre de Cent Ans, après Jeanne d'Arc. Et donc, en 1435, le traité d'Arras met fin à cette guerre civile entre le duc de Bourgogne et le roi de France. Et les capitaines de Charles VII se retrouvent sans emploi, parce qu'ils étaient habitués à piller les terres du duc de Bourgogne. Et par conséquent, ils se mettent à vivre sur le pays, c'est l'expression qu'on emploie à cette époque-là, pour pouvoir subsister. Et donc, comme ça, jusqu'en 1445, où la réforme militaire de Charles VII permet de juguler les exactions. Charles VII met en place donc une armée permanente qui permet d'embaucher une partie de ses écorcheurs, et il pardonne aussi leurs crimes à tous les écorcheurs.
Et d'où vient le nom ? Écorcheur, parce que c'est très violent en fait quand on dit ce terme.
Alors c'est un terme qui est issu du domaine de la boucherie, donc voilà, ça veut tout dire. Donc c'est quelqu'un qui écorche les peaux, évidemment, dans le domaine de la boucherie, et ce terme a été utilisé par les bourguignons.
Donc c'est intéressant, c'est un terme qu'on a utilisé déjà à l'époque, au moment du phénomène, parce que parfois on a des termes qui sont utilisés par les historiens après, des siècles après, là c'est un terme qu'on voit déjà à l'époque.
Exactement, c'est vraiment un terme qui est utilisé dès les premières années. Dès 1435, le terme est utilisé par la population bourguignonne et ce terme est ensuite repris par les autorités bourguignonnes, du moins autant qu'on puisse retracer le parcours du mot. Et donc ça fait Flores, ensuite ça a été repris par les Lorrains. Par contre, en Alsace, on utilise toujours le terme d'Armagnac, en référence au fait qu'ils servaient les Armagnacs pendant la guerre civile contre les Bourguignons.
Et est-ce qu'ils écorchaient vraiment les gens ?
Non.
Ah.
Il y avait quelques tortures quand même, mais ils ne découpaient pas la peau, quoi. Quelques tortures pour obtenir des rançons, il y a eu quelques viols aussi. Je pense qu'ils n'ont pas tous été répertoriés, mais il y en a eu. Leur travail, entre guillemets, c'était vraiment de subsister. Donc c'était surtout du pillage pour des raisons économiques.
Donc ils faisaient peur, en fait. Si on peut dire, s'ils avaient un nom comme ça et s'ils étaient appelés comme ça, ils devaient faire peur à la population.
Oui, effectivement, ils font peur et ils font d'autant plus peur que certaines bandes mobilisent plusieurs milliers d'hommes.
Ah oui, donc c'est pas juste une petite équipe qui terrorise les gens, on parle de... c'est une armée en fait.
Alors
là.
Effectivement, hein, ce sont, pour les plus grosses bandes, ce sont des armées. Alors après, on a des petites bandes de quelques dizaines de personnes. Mais par exemple, si on prend le cas en 1438-1439, durant cet hiver-là, dans le sud-ouest, on est peut-être à plus de 10 000, voire plus de 20 000 selon les sources. Alors comme les sources exagèrent, c'est difficile d'avoir une idée précise des effectifs. Mais voilà, on est certainement au plus de 10 000 hommes au bas mot. Donc c'est quand même des grosses troupes. Ça, plus la réputation des capitaines, qui ne sont pas nouveaux dans le domaine du pillage, fait que quand on annonce la venue de quelqu'un, d'un capitaine, forcément, ça finit par créer de la panique, même quand il est à plusieurs centaines de kilomètres.
Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton livre ?
J'ai voulu, en fait, analyser le phénomène, pas seulement d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue anthropologique. Jusqu'ici, l'historiographie s'était concentrée sur le phénomène militaire. Il y a eu des historiens qui ont travaillé dessus au XIXe siècle, et qui ont retracé la chronologie, la géographie des déplacements. Alors, sur ce domaine-là, j'ai pas apporté grand-chose de nouveau, parce que c'était très bien fait. Hein. C'est les historiens méthodistes du 19e siècle, donc eux, on peut leur faire confiance. En revanche, sur l'usage de la violence, sur les raisons de la violence, et aussi l'analyse géopolitique de leurs déplacements, parce qu'ils maîtrisent très bien les circonscriptions, les juridictions, etc., les frontières. Donc, on se rend compte que les pillages, jusqu'ici, ils étaient présentés souvent comme désordonnés, comme sauvages, etc., assez irrationnels, alors qu'en fait, la plupart du temps, ils agissent vraiment d'un point de vue très rationnel. Quand ils vont d'un point A à un point B, c'est qu'ils ont des raisons et qu'on peut retrouver à l'aide des sources et puis à l'aide de la cartographie. Là, pour le coup, la cartographie joue un rôle très important, même s'il n'y a pas de carte dans mon bouquin.
Quoi, il n'y a pas de carte ?
Non, on ne peut pas tout faire. Voilà.
Donc, tu as vraiment étudié en fait, ces écorcheurs du point de vue social, en quelque sorte.
Exactement. Et donc, ça m'a permis d'essayer de comprendre un peu mieux quelles sont leurs motivations. Parce que bon, j'ai dit tout à l'heure qu'ils vivaient sur leur pays, c'est exactement ça. Mais les groupes d'écorcheurs ne sont pas composés uniquement d'hommes d'armes. Ils sont accompagnés de femmes, d'enfants parfois aussi, de paysans aussi, qui cherchent à fuir la misère et ils se disent, le pillage, ce sera peut-être pas plus mal pour subsister. Et par conséquent, on a un groupe, des bandes très hétérogènes au final, et qui vivent véritablement dans la pauvreté.
Et donc, on l'a dit, c'est sur vraiment une dizaine d'années que ce phénomène se met en place. Et donc, on est sur quel espace géographique ? Est-ce qu'on est que sur la Bourgogne ou est-ce qu'on a ça dans toute la France ?
On a ça dans à peu près toute la France, alors à des rythmes différents selon les régions. Et c'est pas en même temps partout. C'est très localisé. On a des bandes qui circulent sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres en une année. Donc, ce sont des bandes très mobiles au sein du Royaume de France et surtout sur les marges du nord et de l'est du Royaume de France, les territoires bourguignons. Mais on peut aller jusque dans le Saint-Empire, puisque en 1438-1439, notamment, ils ont été pillés en Lorraine et en Alsace, notamment dans la vallée du Rhin. Donc, on a quand même une localisation qui est quand même proche du Royaume de France. Parce qu'en fait, ça reste des capitaines de Charles VII, malgré tout. Quand ils ne pillent pas, ils sont dans son armée. Et donc, globalement, ils ne cherchent pas à contrevenir à ses intérêts.
Donc, ces personnes, c'est plutôt des nobles, enfin, ceux qui dirigent en tout cas les mouvements, c'est plutôt des nobles ?
Alors, la plupart des capitaines, oui, ils sont des nobles. Après, des nobles de niveau social très différent. On peut avoir parmi les écorcheurs, par exemple, un Dunois. Donc quand même la haute noblesse, même s'il est bâtard, il est quand même cousin du roi de France, donc qui opère aux alentours de 1441. Et puis à côté de ça, on a des capitaines, des petits capitaines, dont on n'a que le surnom. Capitaine Capel, Tempête. Bon, déjà, Tempête, ça peut être significatif de quelque chose, mais on ne connaît rien de leur identité. Voilà. Donc on ne sait même pas s'ils sont roturiers ou pas.
Mais comment on peut expliquer que des nobles qui sont censés avoir un certain quand même niveau social se sont abaissés à piller ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas juste, entre guillemets, alors c'est peut-être simpliste hein, comme question, peut-être naïf, mais pourquoi ils ne sont pas juste rentrés chez eux et vivre de leur domaine ?
Alors, deux raisons principales. La première, c'est que ces grands capitaines là, qui sont issus de la noblesse sont liés à Charles VII. Et en fait, quand ils pillent, généralement, en tout cas, quand on a assez de sources, on découvre qu'en fait, ils sont en train de piller au service de Charles VII, en gros. Voilà. Alors Charles VII dit non, c'est pas bien, faut pas piller. Mais en réalité, Charles VII, ça l'arrange bien.
Et il l'empoche quand même.
Alors Charles VII, non, il l'empoche pas. Mais en tout cas, il engrange des bénéfices dans les négociations. Par exemple, en 1445, on voit bien que Charles VII couvre Poton de Xaintrailles et Robert de Flocq, qui sont en train de piller les possessions bourguignonnes, au moment même où Charles VII est en train de négocier avec la femme du duc de Bourgogne. Donc voilà, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que bah, ce sont des chefs militaires, ils ont sous leur responsabilité des hommes pour lesquels ils doivent assurer la subsistance. C'est le rôle du capitaine d'assurer la subsistance de ces hommes. Et il ne peut pas se permettre de perdre leurs hommes, parce que si leurs hommes ne subsistent pas, ne vivent pas, eh bien, ils vont quitter le capitaine. Et dans ce cas-là, ce capitaine-là ne pourra pas recruter au moment où il en aura besoin. Donc, il est obligé d'assurer la subsistance de ses hommes pour les garder. Et c'est ce qui explique, en fait, ces pillages.
C'est un cercle vicieux, en fait.
Bah, cercle vicieux, oui et non. C'est-à-dire que c'est un mode de vie, en fait. Le problème qu'on a, c'est qu'on oppose trop souvent, en fait, le service armé du roi et le pillage à côté. Parce que c'est la législation, les ordonnances royales de l'époque font bien la distinction entre les deux. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. Quand ils sont au service du roi, pendant les opérations de siège ou les campagnes militaires, ils continuent de piller, en fait. Donc c'est un mode de vie, le pillage. Donc c'est pas vraiment antinomique, c'est juste un mode de vie qui fait que eh bien, ça leur paraît naturel, en fait, de piller.
Bon, tu nous as déjà cité quelques noms d'écorcheurs, mais je veux bien que tu nous racontes peut-être quelques parcours d'écorcheurs que tu as pu étudier, qui n'avaient été finalement pas assez étudiés avant.
Bah en fait, quasiment tous n'ont pas été assez étudiés avant. Alors, il y a Robert de Sarrebruck, qui a été étudié par Valérie Toureille, donc il n'y a qu'à lire son bouquin, et puis comme ça, ce sera bon. Mais en fait, on a plein de profils différents. On a, par exemple, un Lahire ou un Poton d'Oxentraille qui pille uniquement au service de Charles VII. Voilà, ils sont officiers du roi, donc eux, quand ils pillent, c'est jamais contre les intérêts de Charles VII, et c'est souvent à sa demande, en fait. Voilà. Ensuite, on a des électrons un peu plus libres. Rodrigue de Villandrando, capitaine castillan,
qui s'est mis... Oui, il y avait un indice dans le nom, effectivement.
Oui, voilà, exactement. qui s'est mis au service de Charles VII, mais qui est aussi au service du duc de Bourbon, qui est pas très copain-copain avec Charles VII. Enfin, en tout cas, Charles VII s'en méfie beaucoup. Et en gros, lui, il vit de pillage. Alors, le truc, c'est que lui, c'est un des gros capitaines, puisqu'il y a souvent plus de 10 000 hommes, selon les sources, sous ses ordres. Et donc, là où il passe, ça repousse pas, quoi. Hein. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, on a des capitaines secondaires, plus en difficulté. J'étudie dans mon livre le cas de Dimanche de Cour, qui est un capitaine qui a quand même des états de service assez intéressants au service de Charles VII, mais qui est régulièrement en difficulté. Et puis, parmi les écorcheurs, j'ai pu retracer aussi le parcours de certains non-guerriers. Pierre Hervé, par exemple, un simple homme d'armes. J'ai trouvé sa lettre de rémission aux archives nationales, enfin, à les numériser. Et donc, Pierre Hervé, sa lettre de rémission retrace tout son parcours entre 1429 et 1444, au moment où il prend sa retraite. Et lui, c'est un simple homme d'armes. Et dans cette lettre de rémission, on voit bien que sans pillage, il ne peut pas survivre, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi un barbier, Gaillard d'Amad, dans le sud-ouest, qui profite du passage d'écorcheurs en 1438 pour entrer à leur service. Mais il reste dans sa région natale, la région de Toulouse, le sud de Toulouse. Il sert de guide, en quelque sorte. Et puis après, il reste chez lui, quoi. Et après, il a quelques problèmes avec son voisinage, parce que justement, il a servi les écorcheurs. Donc voilà.
Et dans les sources que tu as étudiées, en fait, tu as des sources, bien sûr, donc, comme tu as dit, l'aide de rémission, donc qui là sont émises, entre guillemets, par les autorités. Mais est-ce que tu as aussi des sources directes des personnes que tu as étudiées?
Alors non, c'est ça le gros problème quand on étudie les écorcheurs, c'est qu'on a des sources qui sont issues principalement des pouvoirs qui ont été victimes de l'écorcherie, en quelque sorte.
Donc il y a déjà un biais.
Enfin, il y a un biais.
Il y a toujours un biais, mais là, il y a déjà un biais
de
position.
Exactement. Je ne sais pas ce que pensent les capitaines de l'écorcherie, parce qu'ils ne s'expriment pas. Donc voilà, c'est des sources surtout bourguignonnes. Alors les sources bourguignonnes, ce sont principalement des enquêtes sur les ravages commis par les écorcheurs. On en a conservé quand même quelques-unes qui sont bien étoffées et qui donnent donc beaucoup de détails. On a aussi des registres de comptabilité, puisque le duc de Bourgogne et puis les villes aussi cherchent à s'informer sur les passages des écorcheurs. Donc, du coup, demandent des informations, donc envoient des informateurs. Ça peut être des espions, mais ça peut être juste des marchands aussi, qui vont essayer de donner des informations sur la circulation des écorcheurs. On a aussi des registres de comptabilité pour la mise en défense. Et puis, on a aussi des actes de pardon de la part du duc de Bourgogne, parce que quand les écorcheurs sont passés en 1439, notamment dans le duché de Bourgogne, eh bien, certains seigneurs et certaines villes les ont bien accueillis. Ils n'avaient pas envie de se faire piller, tout simplement.
Oui, c'est une technique.
Voilà. Et donc, ils ont contrevenu aux ordres du duc de Bourgogne. Donc, le duc de Bourgogne a piqué une crise de colère, quoi. Donc, il a montré qu'il n'était pas content. Et il a voulu ensuite... mais c'est de la mise en scène, hein. C'est-à-dire qu'il, dans un premier temps, il montre qu'il n'est pas content. Et puis, dans un deuxième temps, il leur pardonne. Parce que, il a bien compris que, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais voilà. Donc, on a conservé quelques actes comme ça qui permettent d'en parler.
Et est-ce que tu as étudié aussi la postérité des écorcheurs? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un terme qui, aujourd'hui, nous parle un peu, alors que c'est, donc tu as dit, un phénomène qui a duré une dizaine d'années. Comment tu expliques que le phénomène des écorcheurs ait autant marqué les esprits ensuite ?
En fait, il n'a pas beaucoup marqué les esprits ensuite. C'est-à-dire que le terme est repris par Thomas Bazin quand il écrit sa chronique de Charles VII dans les années 1460, et c'est tout. C'est au XIXe siècle que les historiens redécouvrent les écorcheurs, notamment les travaux d'Alexandre Tuétet, qui est un archiviste paléographe et qui ont été vraiment précurseurs. Ensuite, les historiens locaux de la Bourgogne se sont greffés sur ces travaux pour les compléter et donc ont trouvé de nouvelles sources. Et c'est vraiment au XIXe siècle qu'on découvre les écorcheurs au final, et ça correspondait à l'image qu'ils avaient au XIXe siècle du Moyen-Âge. Un Moyen-Âge violent, un Moyen-Âge sombre, avec les écorcheurs on a tout.
Hein. Oui.
Et d'ailleurs, quand on lit les bouquins du XIXe siècle sur les écorcheurs, en gros, quand on cite les exemples de violences commises, ce qu'ils trouvent, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, en fait. Ils gardent le sensationnel, et puis le reste, voilà. Donc, il faut correspondre, en fait, le phénomène des écorcheurs à leur propre image du Moyen-Âge.
D'accord, ok. Donc, c'est intéressant de voir que c'est que parce que le 19e a ravivé cette image qu'on a aujourd'hui. Parce que le terme écorcheur nous parle, en fait. C'est ça qui est étonnant.
Il est assez évocateur, au final, parce que on se dit, ces types-là, ils doivent pas être très, très sympas. Mais effectivement, mais en fait, il y a très peu d'études. Les historiens qui ont travaillé dessus, on doit se compter sur les doigts des deux mains, grand maximum. Depuis le 19e siècle. Donc, il y a certainement encore des choses à découvrir sur les écorcheurs.
Et donc, dans ton livre, tu évoques effectivement certains parcours, mais tu évoques aussi... Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu évoques en fait les étapes de l'écorcherie. Donc, le début, le pillage, les effets de l'écorcherie. Et donc, la fin, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, comment se finit l'écorcherie ?
Donc, elle se finit avec la réforme militaire de Charles VII. En 1445, Charles VII promulgue une réforme militaire qui met en place une armée permanente et payée, surtout. Parce que s'ils ne sont pas payés, ils vont continuer de piller. Et par conséquent, les capitaines sont chargés de sélectionner leurs hommes. Donc, ils choisissent ceux qu'ils préfèrent, et puis les mieux équipés. Et donc, ça permet comme ça de mobiliser environ 9000 hommes, donc une bonne partie des écorcheurs tout de même. Et puis, pour compléter sa réforme militaire, notamment pour permettre un retour à la vie civile, Charles VII promulgue une abolition générale, c'est-à-dire un pardon général, pour tous les crimes commis par les écorcheurs. Alors, ça, c'est très important parce que ça leur permet de rentrer, en fait, chez eux ou ailleurs sans craindre de poursuites judiciaires pour les pillages qu'ils ont commis.
Mais ça fait moins de sources après, c'est dommage.
Non, ça fait beaucoup plus de sources,
en fait.
Ah,
ok.
Parce que, en réalité, par précaution, ces hommes d'armes ont aussi demandé beaucoup de lettres de rémission individuelles pour doubler un peu l'abolition générale. Et d'ailleurs, on a perdu le texte original de l'abolition générale. Et donc, c'est dans ces lettres de rémission qu'on voit justement cette référence-là. Et donc, dans ces lettres de rémission, ils racontent leur parcours. Et par exemple, tout à l'heure, je parlais de Pierre Hervé, c'est exactement ça. Il raconte ses états de service, il raconte ses pillages. Alors évidemment, il va minimiser ses pillages parce que le but, c'est d'obtenir un pardon. Donc on ne peut pas dire qu'on a violé.
C'est sinon, là où tu peux croiser un peu les sources, en fait.
Exactement. Et donc, les lettres de rémission fournissent un bon complément, finalement, sur les parcours d'écorcheurs. Voilà.
Bon, Christophe, là, bien sûr, tu viens de sortir ce livre, donc là, tu te reposes quand même un petit peu ou pas du tout ?
Pas du tout, je suis censé... En fait, je suis censé rendre le manuscrit de ma thèse version publiée au mois de janvier. Mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard.
Donc, quelques semaines au moment où on enregistre ce podcast, mais donc ça veut dire que quand il va sortir, tu auras déjà rendu...
Non, je l'aurai pas rendu parce que là, je suis trop à la bourre. Donc, il faut que je diminue en fait mon manuscrit de presque 40%.
Oh.
Et donc...
Les notes de bas de page, allez hop.
Les notes de bas de page, c'est quand même...
Bien sûr, c'est important.
Et du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Donc, j'espère que la thèse version publiée sera publiée dès 2024. Mais bon.
Et là, du coup, on sera sur un format plutôt universitaire.
Oui, là, ce sera un format plus universitaire, sans doute moins facile à lire que le bouquin sur les écorcheurs, en tout cas.
Et est-ce que tu aurais peut-être... Alors, bien sûr, on va pas se porter la poisse ni rien, mais est-ce que tu aurais peut-être d'autres envies de livres comme ça, de, entre guillemets, grand public ?
Ouais, j'en ai plein. Alors, pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que...
Bien sûr, je comprends.
Mais j'ai beaucoup d'idées. Mais ce que je tiens à faire pour les livres au grand public, c'est qu'il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Je ne vois pas l'intérêt de répéter ce que les autres ont dit. Donc, comptez pas sur moi pour écrire un bouquin sur Jeanne d'Arc, par exemple. Mais par contre, j'ai d'autres idées. Il faut qu'il y ait au moins... Moi, mon principe, c'est qu'il y ait au moins quelques sources inédites que je puisse exploiter pour apporter vraiment quelque chose de neuf. Je suis beaucoup trop occupé, donc si je me mets à répéter ce que disent les autres, il n'y a aucun intérêt.
Oui, tu veux vraiment faire là ton œuvre, ton travail d'historien.
Exactement.
D'apporter des choses.
Exactement, et puis essayer de le rendre accessible à un public large, on va dire. Parce qu'au grand public, ça ne veut rien dire, mais... En tout cas, un public plus large que le public universitaire.
Bah écoute, merci beaucoup Christophe. Voilà, donc je renvoie vers toi. C'est rare que je fasse un épisode sur un livre. C'est très 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 rare, vraiment. Il y a beaucoup de podcasts qui font ça, mais très bien, chacun son style. Mais là, je trouve ça très important parce que je t'ai reçu, j'ai assisté à ta soutenance. Et là, je me dis, mais c'est logique de t'avoir pour ton livre. Donc je répète, Les Écorcheurs aux éditions Arkay, qui est sorti en octobre 2023, qu'on peut trouver chez tous les bons libraires indépendants. Et voilà Christophe, bah, je te souhaite bonne continuation pour la suite. On te retrouve un peu partout, peut-être bientôt dans d'autres épisodes de Passion Médiéviste, ouais, on ne sait pas, peut-être. Merci beaucoup.
Merci Fanny.
Salut.
Salut.